Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'amour me relève chaque jour. Le couple et la famille à l'épreuve de la maladie psychique. C'est le témoignage bouleversant et plein d'espérance d'un homme et d'une femme dont l'amour résiste et rayonne au cœur de la maladie. Marc et Charlotte Brunteau, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes en direct des studios de RCF Clermont où vous habitez. Merci beaucoup de nous donner ce temps ce matin. C'est vous, Marc, qui avez écrit ce livre. Charlotte, vous prenez la plume à la fin de l'ouvrage, ainsi que vos enfants. Mais nous sentons bien que c'est votre couple qui parle à travers vos mots, Marc Brunteau. Et c'est vrai que vous racontez... Pardon ?
Non, allez-y, allez-y.
C'est vrai que vous racontez avec beaucoup de vérité votre parcours de vie. Je voudrais qu'on commence tout simplement par nous arrêter sur votre carrière militaire que vous avez embrassée avec passion dans l'infanterie. Comme votre père avant vous, vous êtes un chef né. Quels enseignements tirez-vous de cette fonction ?
L'humilité, d'abord. Pour obtenir la cohésion et l'adhésion de ces hommes, il faut savoir les écouter, il faut savoir être à leur hauteur, il faut savoir être petit, ce qui est pas du tout péjoratif. Mais c'est ça que j'ai retenu. La deuxième chose que j'ai retenu, c'est que avant de partir en Afghanistan, mon père m'a dit, tu pars à l'aventure, mais ne te trompe pas d'aventure. La vraie aventure est humaine. Et c'est ça qui a apporté et qui m'a le plus enrichi dans mon parcours militaire.
La vraie aventure est humaine. Et cette humilité, nous allons en parler au cours de cette émission, puisque vous essayez de la vivre à travers votre vie de couple et de famille et à travers l'épreuve de la maladie. Vous avez parlé, Marc Brunteau, de l'Afghanistan, puisque vous avez été envoyé en opération extérieure, où la peur était permanente, des attentats, des missions périlleuses, des scènes de mort insupportable. Tout cela vous marque profondément, vos cauchemars sont fréquents et l'alcool est votre réconfort. C'est un premier combat que vous devez mener à votre retour. Sur quelle force pouvez-vous compter ?
Alors oui, en rentrant en Afghanistan, en fait, j'ai changé mon type de consommation d'alcool. Je me suis mis à boire tout seul et je me suis mis à boire tous les jours. Alors, ce sur quoi je me suis appuyé, c'est la vérité, en fait. Bon, j'avais eu la chance, entre guillemets, d'avoir eu un père qui buvait beaucoup, qui était alcoolique. Donc, en fait, je me suis appuyé sur cette vérité-là. Et quand je me regardais dans la glace le matin, eh ben, je trichais pas. Je savais que j'avais trop bu la veille. Donc j'étais assez conscient de ce souci-là qui m'a permis de me prendre en main assez tôt.
Vous dites que vous avez eu la chance d'avoir un papa alcoolique. C'est quand même pas courant de l'appeler une chance.
Oui. Bon, il était, c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Mais son parcours fait de violences conjugales et d'alcool et de consommation d'alcool abusive m'a permis, moi, de connaître des limites alors que j'ignorais même que mon avenir serait fait de ça. Et son exemple m'a servi. Donc un jour, il m'a demandé pardon, ce qui a été un réconfort pour moi extraordinaire. Je lui ai pardonné 25 ans de malheur en une demi-seconde. Et puis lui, il m'a partagé 66 ans d'expérience et parce que lui aussi était un militaire, lui aussi avait vécu des moments avec la mort assez proches. Et son expérience, j'ai su me servir de son expérience et c'est un cadeau qu'il m'a donné. Voilà, d'une certaine manière, c'est un cadeau qui est compliqué à recevoir, mais ça reste un cadeau qu'il m'a offert.
Charlotte Brunteau, vous suivez à distance, puisque vous êtes en France, ces opérations sur des terrains de guerre. Comment envisagez-vous d'aider votre mari à son retour d'opération extérieure ?
J'ai pas envisagé de l'aider à son retour d'opération, parce qu'en fait, quand il est parti... J'avais pas du tout conscience de la dangerosité de la mission qu'il allait mener, de tout ce qu'il allait pouvoir vivre là-bas. À l'époque, c'était, moi, j'avais même pas de boîte mail, vous voyez. Donc, c'était vraiment le tout début de cette communication virtuelle. Donc, en fait, on s'appelait très peu. C'était, on s'écrivait beaucoup. Et j'avais demandé à Marc, nous étions fiancés à l'époque, j'avais demandé à Marc de pas me raconter trop ce qu'il y avait de, ce qu'il vivait de dur et de dangereux. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de passer des mois et des mois la trouille au ventre. Et puis, voilà, il est militaire, il repartira en OPEX. Et donc, je veux pas à chaque fois ne pas vivre. Voilà. Et donc, bah, quand il est rentré, et puis surtout, c'est un choc. Il a vécu un choc post-traumatique. Mmh. Donc, post-traumatique, ça veut dire que ce sont des choses qui se révèlent à distance du traumatisme. Donc, quand il est rentré, on s'est marié quelques mois après, quelques semaines après. Donc, on était dans la préparation du mariage. Et donc, j'ai pas mesuré ça, lui non plus. Donc, j'ai pas eu à l'aider vraiment dès son retour. C'est des années après qu'il a fallu que je l'aide. Ouais.
Marc, sur cette demande de votre épouse de ne pas trop raconter ce qui se passait au quotidien sur ce théâtre d'opération en Afghanistan, est-ce que pour vous, c'était difficile de ne pas partager ?
Non, pas du tout, au contraire. En fait, pour vous donner un petit exemple, je venais de faire la queue devant les cabines téléphoniques depuis une heure. On était en hiver, il faisait moins 25, et je prends le téléphone, j'appelle Charlotte, qui me dit qu'elle a un problème de robinet. Et en fait, vous venez de vous faire à moitié tirer dessus, vous venez de ramasser les cadavres, et vous n'avez pas envie de raconter ça, en fait. Il y a un tel décalage de vie que vous préférez attendre le retour et vous poser pour aborder ces sujets-là, plutôt que de essayer de les communiquer à chaud, où ni l'un ni l'autre n'arrivera à se construire et à continuer à vivre dans la séparation de l'opération extérieure, en fait. Hein. Donc, je pense que naturellement, je serais resté discret sur ce que j'ai vécu. Et il y a même des choses que j'ai dit à Charlotte plusieurs années après être venu.
Ouais. Et c'est aussi une façon de se protéger, sans doute.
Oui, c'est une façon de se protéger, c'est une façon de se dire, allez, on continue. Vous savez, quand tous les jours, vous voyez la mort, vous vous arrêtez pas, vous voulez pas vous arrêter, parce qu'il faut continuer.
La mission continue.
En fait, notre mission, oui, la mission continue, d'autant plus que j'ai fait une mission qui a été prolongée, ce qui est assez rare, mais parce qu'on était dans un climat vraiment, vraiment chaotique. Donc en fait, de semaine en semaine, le départ se repoussait. Et finalement, on devait partir 4 mois, on est parti presque 6 mois. Donc quand vous faites un marathon pareil, vous vous arrêtez pas sur... vous faites ce que vous avez à faire et vous vous dites, je débrieferai, je réfléchirai après, quoi.
Je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Ce sont les mots, évidemment, que vous avez prononcés le jour de votre mariage, comme tout fiancé. Et vous y faites référence, Charlotte Brunetaud, dans cet ouvrage. À quel moment et comment avez-vous pris conscience que cette promesse s'accomplissait ?
Alors, on en parlera peut-être, mais... Depuis le 2 ans, on a commencé à témoigner. Nous sommes amenés à accompagner des couples en difficulté. Et il y a une jeune fiancée dont le mari est malade qui m'a posé cette question. Si tu avais su ce qui se passerait dans ton couple, est-ce que tu aurais dit oui ? Et je dois dire que je pense que du haut de mes 25 ans, quand je me suis mariée, toute jeune et sans beaucoup d'expérience de la vie, je pense que ça m'aurait fichu la trouille parce que quand on dit oui, je promets de te rester fidèle dans la maladie, dans les épreuves, dans le bonheur, dans la santé, etc. En fait, finalement, on pense que à la santé et au bonheur et on ne se projette pas. Et je pense que c'est humain et heureusement dans ce qui peut être plus difficile. Et en fait, quelques années après, quand en fait les épreuves arrivent et la maladie arrive, les difficultés arrivent, et ben là, on se rappelle de ces mots qu'on a prononcés, qu'on a échangés, cette promesse qu'on s'est faite, non seulement l'un à l'autre, mais effectivement devant nos amis, nos familles, mais surtout devant le bon Dieu, ce qui pour moi est ce qui est le plus important. et de dire, bah oui, j'ai promis, donc j'y vais. Ce jour-là, j'ai reçu des grâces particulières pour tenir. Donc, je sais que ces grâces-là, je dois faire appel à elles aujourd'hui, que je peux m'appuyer sur elles parce que le Seigneur me les donne aujourd'hui pour vivre pleinement mon sacrement de mariage.
L'abbé Grosjean, qui a préfacé votre livre et qui vous a préparé au mariage, vous avez dit lors de cette préparation, un jour il ne suffira plus de vous aimer, il faudra en avoir la volonté. Comment ça retentit pour vous, Marc Brunteau, cette phrase ?
Alors moi, sans a priori, j'ai dit oui à tout ce que disait l'abbé Grosjean. J'avais pas trop de... Je disais, on verra à l'expérience, en fait. Après, il s'est avéré que c'était vrai. Plutôt pour Charlotte que pour moi, en fait. Moi, j'ai toujours eu un fort sentiment amoureux. Et puis, effectivement, parfois, il nous fallait la volonté. Mais c'est plutôt moi qui posais problème. Donc, la difficulté à aimer, elle était plus du côté de Charlotte que de mon côté. Mmh. Parce que Charlotte me soutenait et me soutient depuis toutes ces années, en fait.
En fait, je me souviens très, très bien de cette, je ne sais pas si on peut appeler ça séance ou rencontre de préparation au mariage où on avait la chance d'être tous les deux avec l'abbé. Et donc, il nous a fait tout un topo sur la volonté dans l'amour. Et à ce moment-là, donc, nous étions fiancés. Marc était à Montpellier. On se voyait un week-end toutes les 3 semaines. Et donc, bah, évidemment, on était fous amoureux l'un de l'autre. Et moi, je me souviens très bien, j'écoutais l'abbé et je tenais la main de Marc en me disant, mais de toute façon, mais de quoi il parle ? Toute ma vie, je serais folle amoureuse de lui. Je ne comprenais pas l'histoire de la dimension de la volonté dans l'amour. Et je dois dire qu'un peu présomptueusement, je me disais, mais de toute façon, lui, qu'est-ce qu'il y connaît, quoi ? Je lui ai demandé pardon pour ça depuis. Et en fait, il est vrai que des années après, je me suis souvenue de ça, je me suis raccrochée à ça. Bah, le sentiment amoureux, il s'éteint, bien sûr. Je pense que ça, pour le coup, ça arrive à tous les couples. Il y a des matins, bah, on n'est pas amoureux. Et bah, justement, c'est là que c'est encore plus beau, c'est qu'on regarde. Alors, nous, on a au-dessus de notre lit la bénédiction du pape Benoît XVI, la bénédiction de notre mariage, ainsi que les photos de notre mariage. Et bah, voilà, moi, ça m'a aidée pendant ces années difficiles. Je regardais ces photos et je disais, bah, aujourd'hui, OK, je ne suis pas amoureuse parce que hier, il s'est passé des choses difficiles à la maison, mais j'ai la volonté de t'aimer, j'ai promis que je le ferai, et je pose cet acte de volonté qui finalement est encore plus beau que le sentiment dont on n'est pas responsable.
C'est un acte de foi que vous posez au quotidien.
Foi et puis de volonté
de
profonde.
Volonté aussi. Oui. Marc Brunteau, vous quittez l'armée à 31 ans, à l'issue de votre contrat d'officier qui aura duré 10 ans. Vous êtes embauché chez Michelin et l'on vous confie de grandes responsabilités. Vous vous jetez dans le travail à raison de 18 heures par jour. Votre famille passe au second plan. Et l'alcool, là encore, reste une de vos préoccupations. Vous décidez de vous en soigner. Votre médecin vous annonce que le seul moyen de devenir abstinent est l'humilité. On revient à cette humilité dont vous parliez au début à propos du chef. Comment vous en faites l'apprentissage de cette humilité ?
Oui, alors d'abord, il faut préciser que ce chemin-là, il a duré 6 ans, oui, avec plusieurs rencontres de médecins, etc., sans diagnostic. Et effectivement, on a été muté en Vendée. Et je cherchais un alcoologue, je suis tombé sur un alcoologue formidable, qui, outre le fait d'être médecin, avait deux grandes qualités, c'est qu'il était diacre dans le diocèse de Luçon, et il était aussi responsable d'un groupe de paroles d'alcooliques anonymes du diocèse. Et puis un jour, il me donnait mes médicaments, il me suivait vers l'abstinence, etc. Et puis, il m'a dit, écoute Marc, par contre, il y a un médicament qui est hyper efficace, mais qui se donne pas comme ça, qui est beaucoup plus compliqué à obtenir que d'aller dans une pharmacie, c'est l'humilité. Et du coup, il m'a proposé d'aller dans ce groupe d'alcooliques anonymes. Alors, je pensais jamais faire ça de ma vie. J'y suis allé, et en fait, ça m'a permis de m'en rendre compte de ma petitesse. Pour vous donner un exemple, il y a une femme qui était abstinente depuis 24 ans et qui disait tout le temps, ça fait 24 ans que je suis abstinente et je suis malheureuse, mais je ne lâcherai pas. Alors quand vous avez 2 semaines d'abstinence, et ben face à cette femme-là qui faisait 1m50 et 50 kilos tout cassé, ben vous vous sentez plus petit qu'elle. Et vous vous dites, mais merci Seigneur, parce que si elle est capable d'y arriver, je vais peut-être pouvoir y arriver. Et bien plus que la petitesse, après, il y a une notion de pauvreté qui arrive. Et de se dire, bah en fait, si je veux m'en sortir, il faut que non seulement je sois humble, mais que je sois aussi capable de tout quitter pour m'en sortir. Ce qui sera important après pour la suite.
Oui, alors vous avez parlé de ce groupe de parole d'alcooliques anonymes et c'est vrai que vous avez rejoint les pèlerins de l'eau vive et votre femme, Charlotte, vous avez dit à ce moment-là, tu es pauvre, nous sommes pauvres, les pèlerins de l'eau vive sont ta famille, ils sont donc notre famille. Donc vous, Charlotte Brunto, vous faites aussi cette expérience de la pauvreté, cet apprentissage, comment ça se fait?
Alors, Marc parle d'humilité. Il faut savoir qu'il a toujours été très humble. Et je pense que c'est en grande partie ce qui nous sauve. C'est que très vite, il s'est reconnu malade. Il a accepté ça. Et qu'effectivement, ça a été entretenu après par des hospitalisations. Se retrouver parmi ses pairs en se disant bah, « je suis comme eux ». Et donc, moi, je me suis mis à son école. Je ne suis pas quelqu'un d'humble. En tout cas, je ne l'étais pas. Je suis plutôt fière. Et donc, j'ai choisi de me mettre à son école parce que de toute façon, j'ai compris que si je ne le suivais pas dans cette démarche, on n'y arriverait pas. Et vraiment, on a vécu de grandes choses en famille. Je vous raconte une anecdote. Mmh. Donc Marc, en effet, faisait partie de ce groupe des pèlerins de l'eau vive qui se réunissait, il me semble, une fois par mois. Donc sans nous, hein, entre pèlerins, voilà. Et puis, de temps en temps, il y avait des journées des familles. Et nous avons été plusieurs fois à ces journées de famille. Et en particulier, j'ai le souvenir très précis de la première fois. Donc ça commence par une messe dans une paroisse du diocèse. Sans lien particulier avec les pèlerins, mais qui les accueille ce jour-là. Et donc nous arrivons, nous avions 5 enfants à l'époque. Et il y a lors de la procession d'entrée pendant la messe, au début de la messe, les pèlerins de l'eau vive arrivent en brandissant des panneaux qui mesurent assez grands, avec marqué dessus « Jésus, guéris-moi de l'alcool ». Et nos filles, dont la dernière à l'époque devait avoir 2-3 ans, et ben on suivit les pèlerins avec leur panneau aussi grand qu'elle, Jésus, guéris-moi de l'alcool. Et ça, je pense que ça en a marqué plus d'un. Effectivement, on s'est mis à l'école de Marc, on faisait aussi partie de cette famille. Après, on s'est tous retrouvés ensemble, on a déjeuné. Et puis, c'était aussi une façon de montrer à nos enfants qu'on faisait partie, qu'il fallait qu'on accompagne leur père partout, qu'on l'aide, qu'on le suive, qu'on lui montre qu'on est là pour lui et puis qu'on le rassure. Parce que malheureusement, parmi ces pèlerins et au-delà de ça, des gens malades de l'alcool, y en a beaucoup qui sont tout seuls parce que la famille ne tient pas le coup. Et ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. Mais pour dire à Marc, nous on est là, les enfants sont là, derrière toi, on est tous là. Et ce combat, ça devient le nôtre et on va le gagner ensemble.
Dans quelle mesure ça vous a aidé, Marc, d'avoir votre famille à vos côtés pour ce combat?
Ça a été... Alors il y a eu Dieu qui m'a accompagné, évidemment. Mais la présence de ma famille a été... sans elle, je n'aurais pas trouvé les forces pour m'en sortir. Et ça, j'en suis convaincu. D'abord, la présence de Charlotte, qui a su montrer et me donner de l'amour quand j'en avais besoin et quand je n'en donnais pas. Et puis après, la confiance de mes enfants à l'égard de l'avenir. En disant « Papa, il va s'en sortir parce que papa, c'est le plus fort », etc. Sachant que nos enfants, on leur a toujours tout dit. C'est clair que ce qui m'a sauvé, c'est ma volonté de respecter ma promesse à l'égard de Charlotte en ce qui concerne notre mariage. Et puis c'est l'amour que je leur porte. C'est des êtres que je chéris de tout mon cœur et qui ont fait, qui m'ont fait avancer pas à pas dans la pauvreté, dans l'humilité.
Et c'est aussi cette promesse que vous avez faite lors de l'enterrement de votre frère aîné, Frédéric, que vous aimiez beaucoup et que vous admiriez. Vous êtes engagé à vous soigner à chaque fragilité. Et voilà, et c'est un engagement que vous tenez au quotidien.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un enseignement que m'a donné mon frère aîné, qui s'est suicidé dans des conditions particulières et parfois un peu compliquées, comme généralement dans le cas des suicides. Et du coup, j'ai été très 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 présent au moment de sa mort, aux côtés de ma belle-sœur. Et il y a un moment qui a été extrêmement fort, c'est l'instant le plus dur de ma vie. C'est quand il a fallu que ma belle-sœur et moi, on annonce à leurs deux filles que leur père était mort. Quand vous vivez ça, vous vous dites, il est hors de question, il est strictement hors de question que mes enfants aient à vivre ça. C'est un cataclysme, une douleur incroyable. Et du coup, je me suis dit, que ça soit de la maladie physique, psychique, quoi qu'il se passe, au moindre problème, t'iras voir un médecin. Et ça, je le dois un peu à mon frère, mon frère Frédéric, que j'aimais aussi beaucoup, que j'admirais, parce qu'il m'a, il m'a fait comprendre qu'il fallait prendre soin de soi et pas que du corps.
Mmh. Nous allons marquer une pause musicale, nous arrêter quelques instants. Marc et Charlotte Brunto, je vous propose d'écouter le concerto pour piano numéro 2 de Brahms au piano Sun Wook Kim, accompagné par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
L'amour me relève chaque jour, le couple et la famille à l'épreuve de la maladie psychique. Nous sommes de retour dans cette émission avec Marc et Charlotte Brunto. C'est Marc, vous qui avez écrit ce livre et Charlotte y a participé. Votre médecin, Marc Brunto, vous diagnostique bipolaire. C'est un nouveau combat que vous devez mener et vous citez dans votre ouvrage les différents deuils que vous avez dû faire. Celui d'être en bonne santé et de ne pas dépendre de médicaments, celui d'un travail à plein temps, celui d'une vie à 100 à l'heure, celui aussi le deuil d'être un père parfait. Comment ce travail de deuil se fait-il ?
Alors c'est effectivement une démarche assez mortifère. Il se fait pas à pas et il se fait dans la douleur. Je m'explique, vous donner un exemple. J'ai compris que j'étais bipolaire un 24 décembre dans la cantine d'une unité psychiatrique en mangeant une tartiflette froide et je me suis dit à ce moment-là, si tu es là, c'est que tu es comme eux et tu ne veux pas être ailleurs. Avancer avec sa maladie, c'est effectivement dire au revoir à des capacités intellectuelles beaucoup plus vives. C'est mettre en place un chemin médical structuré. C'est avoir une hygiène de vie parfaite. C'est avoir une communication avec ses proches, avec son travail la plus transparente possible. Pour s'expliquer et pour expliquer ces moments de faiblesse. Donc oui, c'est une transformation, c'est un changement de peau et qui se fait dans la douleur. Voilà.
Et vous, Charlotte, est-ce que vous avez un travail de deuil à faire de la même façon que votre époux Marc ?
Le mari parfait, de toute façon, je sais que ça n'existe pas. Donc non, je parlerai pas de deuil. En revanche, je parlerai de tout ce qu'il en est ressorti de positif sur la vie de famille. Effectivement, par exemple, le travail à mi-temps. Je me souviens d'une fois où nous étions allés rencontrer une des infirmières qui accompagne Marc à l'hôpital parce que on a la chance d'avoir des équipes autour de nous qui nous suivent de près et à qui on doit beaucoup et qui sont très disponibles. Et nous étions allés rencontrer une infirmière parce que Marc allait très mal et elle a évoqué le travail à mi-temps. Et Marc a dit, il n'en est pas question, j'ai 40 ans, il n'est pas question que je travaille à mi-temps, etc. Moi je comprenais pas trop pourquoi ce qu'elle proposait ça et en fait elle nous expliquait que une personne bipolaire pour travailler une demi-journée ça lui demande l'énergie de quelqu'un de pas atteint par cette maladie qui travaille pendant une semaine. Donc c'est là qu'effectivement j'ai compris que ce serait peut-être une bonne chose. Après Marc a fait son chemin et puis il s'est mis à travailler à mi-temps. Et en fait aujourd'hui je vois les fruits chez lui. Il est beaucoup moins stressé, beaucoup moins fatigué. Il a beaucoup de temps pour la famille et il s'occupe de beaucoup de choses dans notre quotidien de famille. À la tête de 6 enfants. Moi, j'ai pas vraiment fait une démarche de deuil. En revanche, j'accueille ça avec beaucoup de joie, j'allais dire, pour notre vie de famille.
Mmh. Vous avez évoqué, Charlotte, le sacrement de mariage et la grâce du sacrement sur laquelle vous vous appuyez au quotidien. Quelles sont vos autres ressources ?
Alors, mes ressources, ma grande ressource, c'est la prière. La prière, vraiment, ce dialogue continu avec le Seigneur. J'essaye, dès que j'ouvre l'œil, de confier ma journée au Seigneur et de m'endormir avec lui le soir. J'essaye aussi d'aller à la messe tous les jours. Je privilégie dans ma journée des temps de prière, des cœurs à cœur avec le bon Dieu. Et puis là, au-delà, enfin, effectivement, pour réactiver les grâces que nous avons reçues le jour de notre mariage, qui sont inhérentes à ce sacrement de mariage, je fréquente les sacrements de la confession et de l'Eucharistie le plus souvent possible. Et puis aussi, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée ici à Clermont. J'ai des amitiés d'une richesse incroyable, des amis toujours présentes, toujours aptes à répondre oui dès que ça va pas, dès que j'ai besoin de, voilà, de me changer les idées, et même parfois c'est elles qui sont venues me chercher quand elles savaient que ça n'allait pas. Et ça, c'est vraiment, voilà, la prière, la présence de Dieu à mes côtés au quotidien, et mes amis, c'est mes deux grandes ressources.
Et pour vous, Marc Brunto?
Alors, moi, je me ressource dans un endroit. J'ai une pièce à moi dans notre maison. C'est mon bureau, dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui me font regarder le passé, d'autres qui me font regarder le futur. Et c'est quand je passe du temps dans cet endroit-là. Alors, soit à gérer les petites choses du quotidien, parce que pour moi, c'est très rassurant avec ma maladie de pouvoir gérer, justement, comme disait Charlotte, une partie de la maison, les factures, les ceci, les cela. Mais bon, pour moi, j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien faire. Et la deuxième chose que j'aime encore plus faire, c'est, enfin, il y en a deux, mais qui vont un peu de pair, c'est passer du temps avec Charlotte, et puis passer du temps avec mes fils. Alors, c'est vrai aussi avec mes filles, mais mes fils, qui ont 16 et 17 ans, sont un peu plus en âge d'avoir des discussions sur des sujets de vie, sur des sujets de géopolitique, sur des sujets d'histoire, sur des sujets de foi, sur des sujets d'amour, sur des sujets de maladie, et ça c'est des moments pour moi qui sont extraordinaires.
Oui. Vous dites aussi dans votre livre que vous vous appuyez sur deux saints comme deux béquilles, Sainte Thérèse et Saint Thomas d'Aquin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui. Alors, je trouve que ces deux saints qui sont un peu contradictoires, c'est ce que je dis, dans leur relation à Dieu. Saint Thomas est assez frondeur et il pose un peu les questions. Enfin, une fois, j'ai entendu ça dans une homélie et ça m'a beaucoup intéressé. On dit Saint Thomas, en fait, il pose les questions que les autres apôtres n'osaient pas trop poser à Jésus. Et ça, cette relation, moi, je l'aime bien au quotidien avec les autres, avec mes amis, avec mes chefs. C'est de aller à la vérité de manière assez rapide et efficace. Donc j'aime bien ça, et dans ma maladie ça m'a aidé, voilà, ça m'a aidé à aller à la vérité de façon rapide, et donc de pouvoir me soigner de manière un peu plus rapide. Et puis l'autre relation, c'est une sainte qui me touche particulièrement, ouais, par sa douceur, sa beauté à la relation à Dieu, son innocence et sa pureté, plus sa pureté que son innocence d'ailleurs. Voilà, elle me porte dans ses paroles, elle me met les larmes aux yeux, et voilà, c'est une docteure de l'Église à 24 ans, quoi.
Oui.
Voilà, faut y aller, quoi.
Vous écrivez que vous cherchez l'humilité chez elle, vous allez chercher l'humilité, la puiser en fait chez elle.
Oui, et je vais chercher une deuxième chose, c'est le carpe diem. Alors ça, c'est un truc qui a été piqué par les gens qu'on fait 68, mais en fait,
c'est inventé aujourd'hui
par Sainte Thérèse. Voilà, elle a un poème qui s'appelle « Rien que pour aujourd'hui ». Et ben moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup de défis, hein, en termes de stabilité, en termes de consommation d'alcool, en termes d'irritabilité, en termes de qualité de la communication que j'ai avec les autres. Voilà, savoir prendre le dessus sur la maladie et vivre avec. Et ben elle me permet de dire le matin, regarde pas plus loin que ce soir, quoi. Alors je suis tout à fait capable de faire des projets à long terme avec ma famille, mais dans mon quotidien, surtout, je ne regarde pas plus loin que le lendemain. J'aime le Seigneur aujourd'hui, j'aime mon épouse et mes enfants aujourd'hui, je ne buverai pas aujourd'hui, et j'essaierai d'être un père et un mari le meilleur possible aujourd'hui.
Dans cette épreuve de la bipolarité, votre vie alterne entre des crises et des périodes de calme. Et même si aujourd'hui, les périodes de calme sont effectivement plus importantes que les crises. Et afin de protéger votre couple et votre famille, vous rédigez un mode opératoire qui se conclut par ne pas se mentir, se pardonner, s'aimer, se faire confiance et se battre ensemble. Alors c'est vrai que c'est une devise, un mode opératoire que n'importe quel couple dont n'importe quel couple pourrait s'inspirer. Comment cultivez-vous cette fidélité conjugale?
Alors, en fait, l'idée, elle est venue tout simplement de dire il faut que je mette ma maladie au même niveau d'importance que si c'était un boulot ou si c'était quelque chose de, voilà, un investissement, on achète une maison. Tout le monde dans ces cas-là s'active, on fait un plan, machin. Bah, la maladie, on a fait pareil avec Charlotte. Donc on s'est fait un mode opératoire en cas de crise, hein, où en fait, on s'est dicté mutuellement les choses et on s'est dit, si moi je pète les plombs et que ma conscience part en vrille, ce papier-là pourra servir à Charlotte. Pour pouvoir orienter les décisions difficiles qu'il faut prendre dans ces moments-là, c'est-à-dire les hospitalisations ou les visites chez le médecin, etc.
Vous jouez un rôle particulier sur votre question. Charlotte.
Oui, pardon.
Je vous en prie.
Vous avez parlé à fidélité conjugale. Oui. Je pense que c'est important de savoir que rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on est marié que voilà, ça y est, on n'a plus d'efforts à faire. Voilà, quand on était fiancé, on était dans la séduction. Et ben, je pense que ça doit continuer quand on est marié. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, rester dans cette séduction, savoir se remettre en question et en posant la question à l'autre. Moi je demande souvent à Marc, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu es encore amoureux de moi? Est-ce que tu regrettes ton choix? Etc. Mais en fait, c'est un peu sur le ton de l'anecdote, mais ça permet de se remettre à niveau. Voilà, la communication est extrêmement importante, très très importante de prendre des temps à deux pour se parler. Et puis, pour moi, la fidélité conjugale, c'est, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la fidélité au sacrement aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Est-ce que, quand même, il n'y a pas des moments où vous êtes dans le découragement, tenté par le découragement, ou même, est-ce qu'il y a des moments où vous exprimez une colère contre Dieu ?
Alors, tenté par pour moi, le découragement, c'est l'arme du diable, donc non. La colère, oui, la colère, je l'ai ressentie. Après, la colère, on n'en est pas responsable. Hein, c'est une émotion qui s'impose à nous. Donc, voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on fait de cette colère ? Ça nous met en mouvement, ça nous bouge. Eh bien, moi, j'ai choisi, avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, de me mettre en mouvement pour sauver mon couple, parce qu'il est vrai que sous le coup de la colère, je me suis vraiment posé la question, qui était légitime, et j'ai pas été la seule à me la poser, de savoir, écoute, tu prends tes enfants sous le bras et tu t'en vas, parce que eux souffrent, toi tu souffres, et finalement, qui faut-il sauver? Mmh. Et en fait, la réponse, ça a été non. Le Seigneur, enfin, j'ai profondément ressenti ça dans mon cœur. Le Seigneur, il m'attend pour être sainte dans mon mariage, d'être sanctifiée par le mariage. Et du coup, ça m'a donné des forces pour me battre aux côtés de Marc et pour l'aider, pour remporter ce combat à deux.
Mmh. Marc, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, et me concernant, la colère, oui, j'y suis passé, évidemment, contre Dieu, contre mon épouse, contre les enfants. Et le découragement, malheureusement, il faut que je l'accepte. Mais l'une des particularités de cette maladie, hein, c'est de donner des phases de dépression. Et donc, effectivement, moi, je suis soumis à un possible découragement du jour au lendemain, avec une grande tristesse. Mais ça fait partie de la maladie. Et Charlotte et moi, on commence à savoir bien gérer ces phases-là. Mais oui, évidemment, la colère, je ne crois plus. Mais le découragement jusqu'à la fin de ma vie, oui.
Et pour conclure, vous écrivez dans votre livre, Marc Brunteau, que vous avez aujourd'hui apprivoisé votre maladie et vous dites même que vous l'aimez.
Oui. Jésus est capable de guérir. C'est une maladie dont on ne guérit pas. Jésus est capable de guérir. Moi, c'est pas ce que je lui demande et je ne pense pas, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la prudence. Et cette prudence que j'avais pas, et ben, elle me permet d'offrir un quotidien à ma famille de bien meilleure qualité, en termes de sérénité, en termes d'amour, en termes de calme, en termes de construction de chacun. Et puis moi, elle m'aide à être pauvre tous les jours. Et je dis souvent à mes enfants, et je vous jure que c'est vrai. Le Christ dit laisse tout et suis-moi. Bah, si le Christ venait sonner à ma porte, et j'aime de tout mon cœur, j'aime de tout mon cœur ma femme et mes enfants, mais je le suivrai. Et donc le jour de ma mort, faudra plus sortir le champagne que les mouchoirs parce que très honnêtement, et je le dis avec beaucoup de joie. J'attends ma mort avec impatience.
Vous avez hâte de rencontrer le Seigneur.
Je n'ai pas dit nez noir, mais j'attends ma mort avec impatience.
Merci infiniment Marc et Charlotte Brunteau pour vos paroles de vérité et pleines d'espérance. Je rappelle le titre de votre livre, L'amour me relève chaque jour, le couple et la famille à l'épreuve de la maladie psychique. C'est édité chez MAM. Merci beaucoup.